Lopez est une chanteuse d'origine portoricaine très populaire de la fin des années 90. Les chances de la voir en spectacle à Gatineau sont d'environ 1 sur 1 million. En contrepartie, les odds de voir un de tes artistes québécois favoris tels que Loud ou Claude Pelgag sont énormes. Grâce à l'ambassade culturelle, tu pourras assister à une multitude de spectacles en Outaouais dans un univers pas mal plus intime qu'à Oshiaga. Et ce, tout au long de l'année. Rendez-vous sur la page Facebook de l'ambassade culturelle pour voir notre programmation ou nous écrire si tu as toujours rêvé de faire la première partie de J-Lo, la chanteuse d'origine portoricaine très populaire de la fin des années 90!
De ses racines autochtones à ses habitants venus du bout du monde, Montréal est une ville de nomades. Le festival Nomade rassemble celles et ceux qui sont nomades par culture, par choix ou nomades forcés. Musique, cinéma, gastronomie, pendant 3 mois, jusqu'en décembre, le festival Nomade fête ses 10 ans. Suivez la programmation sur le www.lacaima.ca, KHAIMA/festival-nomade.
Hey, vous saviez que Choc.ca, ce n'est pas que du podcast? C'est aussi 5 chaînes musicales 24h sur 24 pour vous accompagner partout. Rock, indie pop, hip-hop, musique francophone et musique électronique en écoute gratuite et à volonté. Pour les découvrir, rendez-vous sur le site de Choc.ca sur l'onglet chaînes musicales.
T'as raison, ma Brenda, c'est le résumé des nouvelles de la communication, du marketing, de la publicité et des médias en moins de 10 minutes. Chaque semaine, mets-toi à jour de l'actu, que tu sois professionnel du métier ou pas. T'as raison, ma Brenda, c'est le vendredi à 8h sur choc.ca. Le reste de la semaine en podcast et aussi sur Facebook.
Choc.ca vous invite au Festival Noël dans le Parc du 1er au 25 décembre prochain à Montréal. Venez assister à des centaines de spectacles musicaux gratuits et participer à toutes sortes d'activités amusantes avec vos enfants. Venez voir Bernard Adamus en ouverture le 1er décembre, Bolduc tout croche et carotté le jeudi 13 décembre et Paupière et Klaus le 20 décembre à la place Émilie-Gamelin. Vous pourrez même acheter votre sapin de Noël. Pour connaître toute la programmation, visitez noeldansleparc.com.
Podcast, musique, nouvelles. Vous écoutez choc.ca.
Switch off your television set immediately unless you are prepared to be really terrified.
Bonsoir, chères créatures de la nuit. Je suis votre animateur pour la soirée. Je veux se fucker, c'est pas grave. Hey, à force de faire 3 ans, ouais, le même intro, ouais, là, dès que tu pars ailleurs, là, ça marche plus. Il n'y a plus de constance. Là. Qu'est-ce que les auditeurs vont dire? Ils vont nous lâcher! C'est fini! J'ai plus de carrière! N'importe quoi. Vous écoutez Les Oubliettes, votre sanctuaire des films étranges et oubliés en VHS de Noël. Oui. Je me présente votre lutin, Simon Predge. Et je ne suis pas seul, c'est une personne d'un immense talent, un être extraordinaire, d'une générosité inégalée. Ma plus grande tristesse est de constater que je n'aurai jamais autant de valeur que lui. Oh. On raconte même qu'il est sacrément équipé pour veiller tard. Et j'ai nommé Olivier Biganès. Mais qu'est-ce que c'est ça?
Jesus, c'est pas mon texte, Christ.
Ça. C'est pas moi qui ai écrit ça. Toi. Voyons donc, il y a du liquid paper sur ma feuille, puis c'est même pas mon écriture. C'est toi qui a changé mes notes.
Je suis passé tout à l'heure vite.
Ah, il me semblait aussi. Ben comme, oui. Qu'est-ce que c'est ça? Oh, c'est à des kilomètres de ma pensée. Comment tu vas, Olivier?
Je vais bien. Comment vas-tu?
Ah, oh, ça va. Hein? C'est la féerie de Noël qui s'est pris de nous.
Ben oui.
Vas-tu se regarder le poil qui est hérissé?
Oui, tout est arrivé.
Ah non, c'est parce qu'il fait frais dans le studio. Ah, ben oui, hein? Parce que c'est ça qui arrive. Hein? C'est décembre est arrivé et officiellement...
Car partout, c'est Noël.
Car partout c'est Noël.
Ouais, on remercie Chantal Paris pour ce petit jingle. Eh oui, partout, mur à mur, c'est Noël. Et quelques petites annonces avant de commencer. C'est pourquoi je me suis fait un maudit beau cadeau cette semaine.
Oui.
Hein, parce que moi, ma fête, c'est le 22 décembre, ouais. Et Noël s'en vient, donc tout ça était suffisant comme raison pour me faire un cadeau, parce que je trouve que j'ai travaillé fort cette année, je me suis amélioré beaucoup à plein de niveaux, que je partage pas ici, hein, c'est pas de vos affaires, mais fait que je me suis payé une toile, je me suis payé une œuvre d'art signée Caroline Beaudoin, ouais. Si vous la connaissez pas, ça vaut vraiment la peine d'aller fouiner sur Facebook, chercher, il y a une page Caroline Beaudoin, je ne sais plus comment la page s'appelle malheureusement.
On a parlé d'elle il y a quelques années d'ici.
Ah, j'en doute pas.
Moi, elle me jette à terre avec ses peintures. Écoute, c'est lifelike, c'est quelque chose.
Puis bon, hein, elle a quand même une ligne directrice assez claire. Oui. Elle fait des toiles hommages au cinéma d'horreur, mm-hmm. au grand nom du cinéma d'horreur. On l'a vu faire L'Exorciste, qui est extraordinaire. Oui. Mon Dieu, que c'était beau. Elle a fait récemment Freddy, que j'ai pleuré tous les larmes de mon corps de ne pas avoir été le premier à mettre un dépôt dessus. C'est pas moi qui l'a eu. Elle a fait, me semble qu'elle avait fait un Gremlins.
Elle a fait
The Thing, Halloween. Ils sont tous incroyables.
Moi, j'y avais demandé à un moment donné, mais le timing n'était pas bon. Puis elle était prête à le faire, mais parce le timing n'était pas bon. Puis moi, je voulais qu'elle me fasse finalement la peinture de Shining, de Jack Nicholson, la shot dans la porte. Parce que je sais qu'elle va le peinturer exactement pareil. Puis moi, je le voulais en noir et blanc. T'es comme, on tente pour parler. Tu sais, si j'y regarde, mets-les sur le back burner, je vais te revenir parce que je veux vraiment qu'elle fasse ma toile. Mais oui, c'est du talent pas à peu près, cette fille-là. Là.
Moi aussi, j'avais essayé de passer une commande à un moment donné, mais à ce moment-là, elle se sentait pas prête à prendre des commandes. C'était ça. Elle y allait. C'est quand même. Ben, c'est parce que ça sonne drôle, mais c'est comme si c'était une fille qui débute depuis quelques années, mais en fait, tu regardes son talent, elle est loin d'être débutante. C'est une machine, mais sa façon de gérer, dans le fond, sa carrière de peintre, mm-hmm. elle est encore débutante, puis je pense qu'elle n'ose pas, elle y va à petits pas, puis c'est une très bonne chose, mm-hmm. au lieu de se pitcher, puis d'accepter tout ce qu'on y offre, puis de finir en burn-out, elle y va un pas à la fois à son rythme, fait que ce qui fait que les toiles qui réussissent à sortir de chez elle, ben je pense qu'on peut dire qu'ils sont rares parce qu'il n'y en a pas beaucoup.
Non, hein, mais ils sont uniques. Ils
sont uniques.
C'est unique.
Elle ne les refera pas. Là. Moi, je me suis payé un Pet Cemetery.
Ouais.
Hein, une petite toile, dans le fond, où on voit le jeune Cage vers la fin du film avec le scalpel. On a le chat en colère en bas mm-hmm. sur un fond bleuté. Tu sais, la lueur bleutée qui sort du fond quand il monte vers le cimetière. On a derrière la tête de Cage aussi l'espèce de cercle
le
de pierre
amérindien. Ouais.
C'est quelques décos, la petite tombe et tout ça. Je la partagerai sur la page, en fait, si vous voulez, pour voir son immense talent. Ouais. C'est quand elle fait des portraits, là, c'est photographique.
C'est photographique.
On voit que c'est une toile. Là. On voit que c'est de la peinture, mais son talent, il est incroyable.
C'est identique. Elle a vraiment du talent.
Ah, c'est malade mental. Donc, je vous invite vraiment à découvrir son talent, son travail. Caroline Beaudoin, je l'ai reçu aujourd'hui. Merci mille fois, Caroline. Je suis vraiment très, 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 très content. T'es incroyable. Ceci étant dit, c'est aussi le 30e anniversaire d'un grand film de Noël et j'ai nommé Die Hard. Mais là, c'est un film de Noël. Ça se passe à Noël. C'est un film de Noël. Et on va avoir droit à un petit événement présenté par McFly Event Super qui vous ont offert plein de soirées à mer. La soirée hommage au Back to the Future, la soirée hommage à Ferris Bueller's Day Off et j'en passe. C'est vraiment rendu sa spécialité, ces shows-là. C'est une espèce de projection de film, mais interactive où ce qu'on va mettre le party, c'est-à-dire qu'il y a plein de moments dans le film clés, des classiques, là, des films où ce que il va falloir que tu cries quelque chose, puis on s'amuse, on pitche des affaires. Il y a toujours des scènes refaites sur scène ou ça avec des comédiens. C'est vraiment des beaux parties. Donc, si ça vous tente de revivre Die Hard, ça va avoir lieu le 21 décembre à 21h au Théâtre Plaza. Ça, c'est au 6505 Saint-Hubert à Montréal. Et non, ça, c'est pas... Je devrais pas dire ça. Ça, c'est personnel. Alors, je vais le dire. Trop tard, là. Je me suis mis le pied dans la bouche. Mais on va être une petite gang, justement, ce week-end. Ce vendredi, on s'en va se taper le film pour essayer de trouver qu'est-ce qu'on va vous faire crier, à quel moment on va vous
faire pitcher des affaires. Ça va être un méchant party. Fait que s'il y a des trucs un peu absurdes, un peu déconnectés, ça se peut que ce soit mes pitchs. Mais ouais, bref, ça va être toujours des beaux parties. Ça va être très hot encore une fois. Il y a un spécial de Noël qui arrive aussi dans le milieu du podcast. Moi, je dis ça comme ça parce qu'on parle quand même de pionniers du podcast. Ils sont là depuis genre 11, 12 ans, 15 ans, je ne sais plus. Ils sont là depuis toujours, j'ai l'impression. Et je veux parler du spécial de Noël des Mystérieux Étonnants qui s'en vient le 22 décembre. Pour ceux qui connaissent, vous le savez déjà, j'ai pas besoin de vous le vendre, à quel point c'est un beau party télé, parce que c'est un spécial de Noël en direct, filmé, avec un beau décor, plein de panélistes, des invités, puis c'est vraiment, vraiment un beau party. Ça a beau être des amis, je pense pas être biaisé quand je dis que c'est un de mes spéciaux télé, avec des gros guillemets là, préféré à chaque année. C'est un des spéciaux télé que j'ai toujours hâte de voir puis de découvrir. J'ai déjà participé par le passé et je vais reparticiper cette année. Je ne serai pas là en personne parce que ça tombe à ma fête, puis je vais en passer avec ma blonde, hein, j'ai le droit, je peux me permettre. Oui. Mais je suis en train de préparer un petit quelque chose là pour le spécial. Je vais vous raconter des histoires bien épeurantes en direct. Ce sera pas en direct, mais de mon chalet. On va avoir bien du fun. Donc ça va avoir lieu le 22 décembre. Pour plus d'informations, mystérieuxétonnants.com. Vous pouvez aussi aller voir leur page Facebook. Et ce n'est pas fini, hein, parce que faut jamais oublier que...
Car partout, c'est Noël.
Car partout, c'est Noël.
Fait qu'il s'en passe des affaires. Et pour ceux qui veulent de la musique de Noël, mais pas celle de Radio Rock Détente, ça existe encore? Non, ça existe plus, ça.
Je sais pas.
C'est de la Halloween, hein? Mais on veut ce niveau-là de merditude, puis de rigolo, puis d'absurde, mais on a besoin d'une coche au-dessus. Radio Rock, ma tante, c'est trop flat. On veut une coche au-dessus, on veut rire, puis on veut découvrir. C'est comme ça qu'à chaque année, le 1er décembre, je syntonise Radio Cochonnerie, sous les rênes de Étienne Forêt de Noël. Donc, c'est officiel, le spécial de Noël de Radio Cochonnerie est lancé. C'est-à-dire que 24 heures sur 24, sur le site de Radio Coche, coch.org pour le site web, vous avez accès à 24 heures sur 24 de musique de Noël parmi la pire qui existe au monde. Le meilleur du pire, si je peux me permettre. D'ailleurs, c'est son slogan. Si c'est poche, on l'a. Dans le temps des fêtes, ça devient si c'est poche, on vous l'offre. Et c'est vraiment, il y a toutes sortes de trucs étranges. Ça peut passer des chats, des oiseaux, des vaches qui chantent Noël, jusqu'au vieux Chipmunk Cheap cover des Québécois des années 70. On a des vinyles, des vieilles cassettes, de la musique québécoise, de la musique religieuse, de la musique dance pop branchée. N'importe quoi, si c'est de Noël, c'est diffusé sur Radio Cochonnerie. Je vous invite à le découvrir. Donc, radiocoche.org, vous allez rire une shot. Je vous invite par le fait même, hein, parce que tabarnouche, je fais déjà 13 minutes que je parle, ça n'a pas de bon sens. Je fais ça vite. Découvrez aussi leur podcast Noël chez Isidore, qui parle de Noël à l'année. C'est vraiment du bonbon. Mais si vous n'êtes pas un fan de Noël à ce point comme moi, ben là c'est le temps. C'est Noël, c'est le temps de découvrir Noël chez Isidore. Si vous voulez pas le faire à l'année, vous le regretterez pas. Et dernier petit truc, ce jeudi 6 décembre, un meet-up du podcast Distorsion qui va avoir lieu. J'ai même pas pris l'adresse en note. J'étais un peu Anyway, Meetup Distorsion, cherchez ça dans les événements sur Facebook pour plus d'informations. Ça va se passer ce jeudi, le 6, et je fais partie des invités pour rencontrer les fans de podcasts criminels. Ça va être bien le fun. Sur ce, là, ça va faire, faut qu'on enchaîne. Mais là, aujourd'hui, on était supposé avoir Eric avec nous autres.
Ben oui.
Eric Arsenault, puis malheureusement, ben il est pas non. Là. Qu'est-ce qui se passe?
Écoute, on a un petit hommage pour toi, Eric. Vas-y.
Oh, petit coco.
Oh,
Bonjour, belle Rosine, comment vous portez-vous? Vous me faites la mine, dites-moi qu'avez-vous?
C'est que j'ai mal à la tête ce matin, ce qui me cause, ce qui me cause.
Ben oui.
Eh oui.
Il y a un petit mal, une petite migraine.
Ben oui, Eric a mal au coco.
Un petit mal de tête. Moi, je me suis dit, prends des Tylenol, puis ça va passer, mon homme, tu sais, mais gars, si tu veux. Repose-toi bien, Rick.
Mais, tu sais, je veux dire, faut pas oublier que...
C'est Noël. Car
partout, c'est Noël. Mais pas pour Eric.
Ouais, ouais, on va se mettre dans le bain un peu, là.
Souhaitez joyeux Noël à tous ceux qui écoutent, comme moi, Télésport à CFR.
Car partout...
Souhaitez joyeux Noël à tous ceux qui, comme moi, écoutent
sortir à 16h. Je souhaite un joyeux Noël à tous ceux qui regardent le petit journal à CFR.
Bonjour, j'aimerais souhaiter joyeux Noël à tous ceux qui écoutent La Roue Chanceuse à CFRS à 4 saisons.
Je souhaite des joyeuses fêtes à tous ceux qui écoutent la pierre à feu comme moi.
Joyeux Noël à tous ceux qui écoutent La Maison des Chiens.
My God, hey. Avec La Maison des Chiens.
À tous ceux qui écoutent La Maison des Chiens.
Donc, je commence avec mon film.
Ben, pourquoi tu commences avec ton film, Olivier?
Car partout,
c'est Noël.
C'est Noël.
Oui. Puis tu sais, ici, tu le sais, Simon, que d'année en année, trouver des films de Noël d'horreur, écoute, on les a.
Mais là, on achève, hein? On va se dire.
Je creuse loin, c'est pareil. Puis là, cette année, ça m'a surpris que j'aie pas parlé de ce film-là avant.
J'ignorais son existence.
Je pensais qu'on avait déjà. Je sais pas, je pensais qu'on avait déjà parlé, mais c'est pas le cas. Donc ce soir, je vous parle de Silent Night, Bloody Night, aussi connu sur Night of the Dark, Full Moon et aussi Death House en 1972. Donc non, je parle pas de Silent Night, Deadly Night. OK, c'est pas pareil.
Qui est plus connu.
Qui est beaucoup plus connu. Donc c'est un film américain écrit et réalisé par Theodore Gershoni, qui a entre autres réalisé Kamek en 70, Sugar Cookies en 73. Il y a les téléséries Tales from the Dark Side de 85 à 87, Monsters de 89 à 80, deux épisodes finalement. Il a scénarisé le film Far From Heaven, mettant en vedette Drew Barrymore au début des années 90. Donc sinon, Silent Night, Bloody Night reste à ce jour son plus grand succès. Donc le long métrage ici est co-scénarisé par Jeffrey Convitz. Calvaire, comme producteur sur des films que Simon connaît probablement très bien. Bloodsport 2 en 96, ah ben oui. Cyborg 2 Glass Shadow en 93, 2001 Space Travesty avec, j'ai un blanc, mais on sait c'est qui. Donc, étonnamment,
ben, bon, en tout cas.
C'est lui qui a écrit la nouvelle et le scénario pour le classique d'un film que t'aimes beaucoup, The Sentinel, de 77. Donc, finalement, on a aussi Ira Teller qui a co-écrit, qui a rien fait d'autre. c'est le seul film à son actif. Donc, sinon, le film est co-produit par nul autre que notre bon vieux Lloyd Kaufman. De Trauma. Sa quatrième production. Donc, mais ça n'a rien à voir avec du Trauma, là. Du tout.
Okay.
Donc, le cast, assez rapidement, parce que, écoute, il y en a du monde là-dedans, mais qui ne font tellement rien, puis pourtant, c'est du monde connu pour ces années-là. Donc, on a Patrick O'Neill dans le rôle de John Carter, qui a joué dans King Rat en 65, In Arms Way en 65, The Way We Were en 71, Under Siege en 92, avec... Cuirassé en péril avec Steven Seagal.
Oui.
OK. Sinon, on a James Patterson dans le rôle de Jeffrey Butler. Il a joué dans le classique In the Heat of the Night en 67. Beaucoup de téléséries comme Flipper, Hawaii Five-O, Bonanza. Il est décédé du cancer lorsque le film, celui-ci, était au montage. Donc, il n'aura jamais vu finalement. Beaucoup de personnes qui sont mortes pendant ce film-là en tant que tel, qui ont même pas pu doubler leur ligne.
Ah ouais.
Il y a deux autres acteurs que je me souviens plus, mais oui, il y a un film qui engage d'autres personnes pour faire leur doublage parce qu'ils étaient, ils sont décédés. Donc, on a aussi Mary Colin, pourquoi Eric est pas là? Mary Roronov dans le rôle de Dying Adams, qui a entre autres joué dans le classique comique Eating Raoul en 82.
Ah, c'était bon ça.
Night of the Comet, un autre petit classique cheesy de 84. Ouais. Et The House of the Devil plus récemment de Ty West en 2000.
Je l'avoue que je l'ai pas vu ça.
2009. C'est-tu Ty West? Je veux pas me tromper, en tout cas. On a Astrid Heron dans le rôle d'Ingrid, qui a joué dans Castle Keep en 69 de Sidney Pollack. Le merveilleux John Carradine dans le rôle de Charlie Towman, qui a écoute de Ten Commandments en 56, Boxcar Burda de Scorsese en 72, de Sentinel qu'on parlait tout à l'heure en 67. Il y a 351 films à son actif.
Et le premier est le deuxième. Et ben, le troisième.
I don't know.
On va faire une heure là-dessus.
Mais je sais que il a joué dans un de tes films préférés qui est Shockwaves.
Ouais. Ben préféré. Donc, je l'aime bien.
Un
là.
De tes films d'horreur favoris que t'aimes beaucoup. Là.
Je l'aime bien.
Que t'affectionnes. Là. On a Walter Abel dans le rôle de Mayor Adams qui a joué dans The Three Musketeers en 35, 13 rue Madeleine en 46. On a Philip Bruns dans le rôle de Wilfred Butler qui a joué dans The Stuntman en 80, Flashdance en 83, Return of the Living Dead en 88. Et ce qui est intéressant, on a Ondine et Candy Darling qui ont des rôles muets dans le film et ces deux-là faisaient partie du Warhol Factory. Donc, ce sont des transgenres. Donc, il y avait quelques acteurs du Warhol Factory qui ont niché, qui ont vraiment tourné dans ce film-là, qui ont eu des petits rôles, mais dans des scènes assez marquantes du film, assez saisissantes. Donc, le synopsis... attachez votre sucre, OK? Donc, okay. C'est le 24 décembre 1950. Fut une journée bien triste au manoir de Monsieur Wilfred Butler dans le petit village de East Wheeler dans le Massachusetts. Je l'ai dit comme du monde. celui-ci a péri aux abords de sa demeure brûlée vivant. OK? Une véritable torche humaine. Est-ce une mort accidentelle ou d'origine criminelle? Donc, dans son testament, il va léguer sa magnifique propriété à son petit-fils Jeffrey, à condition qu'il conserve celle-ci dans sa condition d'origine telle qu'il l'a laissée avant sa mort. Donc, selon lui, de laisser tel un monument pour rappeler au monde de son inhumanité et sa cruauté. Donc, c'est okay. La narration au début. On comprend pas tout pourquoi il dit ça. Donc, la maison fut inhabitée pendant une vingtaine d'années, jusqu'au jour où elle fut mise sur le marché par Jeffrey pour la maigre somme de 50 000 $ cash. OK, en 24 heures qu'il veut. Donc, c'est son avocat John Carter qui en prendra la charge auprès du maire et des conseillers de la petite ville. Donc, il va passer la nuit avec sa douce Ingrid le temps que la mairie prenne une décision sur l'offre de son client. Donc, malheureusement, celui-ci et sa maîtresse se feront sauvagement assassiner à coups de hache lors d'un échange intime au lit. Donc, le tueur ganté va laisser un crucifix dans la main de ses pauvres victimes une fois le carnage terminé pour ensuite contacter le shérif Mason en masquant sa voix. Donc, le psychopathe murmure que Marianne est de retour. Donc, oui, la journée où la demeure fut mise en vente, il y a quelqu'un qui s'est échappé d'un hôpital psychiatrique, donc c'est un méchant timing de fou.
Ouais, ouais. On dit tout, un hasard de Noël.
Tiens donc! Donc, entre-temps, Jeffrey Butler vient d'arriver en ville et fera la rencontre de Diane Adams. Donc, la ravissante jeune fille du maire, donc incapable de pénétrer dans le manoir de son défunt grand-père. Celle-ci va l'accompagner au bureau du shérif où celui-ci est manquant depuis ce fameux appel de cette dite Marianne. Donc, Diane va faire la découverte dans les archives de la ville que Marianne était en fait la mère de Jeffrey. Mais celle-ci est supposément morte depuis des années lors d'un massacre qui aurait eu lieu le 24 décembre 1935. Te mélanges-tu, là? Donc, toute cette affaire aurait été cachée par les gens de la mairie. Donc, il se trouve aussi que Wilfred Butler aurait converti son manoir pendant quelques années en véritable asile pour débiles profonds dangereux.
Pourquoi? Facile.
Écoute.
Car
calvaire.
Donc, j'ai dit j'allais être fatigué avec ça aujourd'hui.
Donc, mais écoute, t'as commencé ma prochaine fois, ma prochaine phrase. Pourquoi tout ce mystère caché? Hein? Qui est l'auteur de ces crimes entourant le manoir? Serait-ce Marianne revenue des morts pour exercer sa vengeance? Ou Jeffrey venu venger la mort de sa mère? Est-ce que Jeffrey est vraiment Jeffrey? Pourquoi les membres de la mairie semblent si effrayés par cette maison et ce qui s'est passé le 24 décembre 1935? So many questions, hein?
Fait qu'on est vraiment, on est vraiment dans un whodunit, là.
Ouh! Pas vraiment.
Ah, oh, OK, pas tant.
Non, pas vraiment. Donc,
c'est pas bien clair, hein?
C'est ça.
C'est ça le problème.
C'est voulu.
Hein?
C'est en plein ça, c'est voulu. Donc, okay. Le film tourné en 1970, OK, pour ensuite sortir sur grand écran seulement 2 ans plus tard, en 72. Donc, il a fait la tournée des drive-in un peu partout. Il a connu un certain succès, mais il a surtout gagné en popularité lorsqu'il a été présenté au Elvira's Movie Macabre. Il a été aussi distribué sous le titre Dead House en 1980 par Paragon Video, qu'on aime beaucoup ici, pour un titre qui est beaucoup plus accrocheur à cette époque-là. Donc, Silent Night Bloody Night, je m'en ai dit, Silent Night Bloody Night a beaucoup de similarités avec le classique Black Christmas de 1970 de Bob Clark, qu'on aime tous, qu'on connaît tous. Donc, le style surtout dans le premier acte du film. Donc, les coups de téléphone anonymes à la voix masquée, un tueur ou tueuse introduit dans la maison en se cachant au grenier, la caméra wide pan fisheye un peu, ouais. Lorsque nous sommes dans la vision à la première personne finalement du psychopathe, et bien entendu, ça se passe pendant le temps des fêtes. Donc,
la magie de Noël.
Théodore Gershney, OK? Je pogne tout le temps les noms pas le fun. Gershney nous concocte une histoire beaucoup plus complexe et quelque peu maladroite, OK? Même les acteurs n'y comprenaient rien. Mary Woronoff, celle qui incarne Diane, a dit que le tournage était un véritable cauchemar pour les comédiens. Ils se faisaient donner des bouts de script chaque jour. Les comédiens ignoraient ce qu'ils faisaient ou où l'histoire s'en allait. Il a essayé de rendre l'œuvre artistique, mais cela n'a pas vraiment marché selon elle, OK? Okay. Elle n'a pas tort, mais elle n'a pas raison non plus. Oui, les acteurs, par moments, ont des drôles de réactions en lisant leurs textes de façon générique. Et pourtant, c'est pas des acteurs de bas de gamme, là, du tout. On a le feeling qu'ils savent vraiment pas ce qui se passe trop. Ils comprennent pas trop où ça s'en va. Et je te dirais que surtout les interactions entre Diane et Jeffrey. Exemple, lorsque Jeffrey cogne à sa porte, elle remarque que c'était le gars qui faisait du pouce sur le bord de la route au début de l'après-midi, et elle va l'accueillir à sa porte avec un revolver. Donc, depuis l'évadé inconnu de l'hôpital psychiatrique à paranoïe. Donc, c'est quand même comique toute la scène de « Je vais prendre mon gun, j'ouvrirai la porte, please come in. » Tu sais, puis elle tient son gun, puis t'es... OK, tu sais, c'est comique.
Mais c'est ça qu'on appelle comment on dit ça? La magie d'Anaël? OK, excusez.
Ça a pas marché, t'as essayé de peser, je suis sûr que ça a pas marché.
Non, pas ce fois-là. Ah, OK. Pas okay. Ce fois-là. Mais on peut alterner un peu, là. Sinon, c'est de l'abus, là.
Donc, OK. Lorsque le maire de la ville attend patiemment debout que son téléphone sonne sur la table de chevet lors d'une scène qui aurait dû clairement être raccourcie au montage,
oups.
C'est comique. Tu sais, comme ça commence, puis il attend que le téléphone sonne.
Ah, oh, non.
Puis, t'es comme... Oh,
un mauvais scoop, là. Ouais.
Tu sais, mais ça arrive pas souvent, OK? mais c'est comique. Tu sais, t'as un petit sourire. Oh,
c'est... J'aime pas ça quand c'est mal monté de même, là.
Mais c'est pas si pire. C'est des petites scènes comme ça, mais ça arrive rarement. Tu sais, bon.
OK.
certains personnages sont complètement gaspillés. Et je pense surtout à notre bon vieux John Carradine ici qui est muet. Se limite à sonner sur une cloche. Vraiment comme une cloche, ding, 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 en guise comme d'acquiescer dans une conversation. C'est très étrange au début quand
attends,
on voit
le
ça.
Le personnage est muet, c'est ça?
Le personnage est muet.
OK.
Donc, lui, quand on le voit dans le film, quand ils sont à leur conseil, mini-conseil de la mairie, là, il parle pas, lui, il va taper sur une cloche pour dire « Ah oui ou non, tu le sais pas ».
Mais est-ce que ça apporte quelque chose qu'il soit muet?
Non. Okay. Tu sais, c'est...
OK.
Non, non.
OK.
Tu sais, donc, c'est gaspillé, c'est devant valeur, OK? T'as pas n'importe qui dans ton film, là, ouais. Sérieusement. Donc, il va être en train de gribouiller sur un papier le peu de mots ou textes qu'il aurait dû lire, j'entends ouais. Tel, il va l'écrire. Donc, shame on you, Gershony, gaspiller du talent comme lui le dans faire un de tes films.
Amener John Carradine pour jouer un buisson.
Ça coûtait-tu si cher que ça, le faire parler, genre comme common, là, comme ça. En tout cas, je trouve ça de valeur. Et un personnage manquant, OK, qu'on n'a pas assez exploré dans ce film-là, c'est définitivement le manoir. Moi, je suis un de ceux qui adore les films d'horreur, qui se passent dans une immense maison, un manoir, une villa, un château gothique où la mise en scène est placée, OK, comme une toile d'araignée. Donc, des titres comme The Burnt Offerings, The Hunting ou The Ghost Keepers et, bon, j'en passe, comme la liste est longue, vous le savez, là, j'ai trouvé ça dommage quand même, qu'on passe pas assez de temps dans la maison qui est quand même vraiment hot. Mais celui-ci mise d'abord et avant tout sur une histoire qui sortait du lot avec quelques twists inattendus pour son époque surtout, et c'est pas inintéressant. Je vous garde tout de même la surprise. Mais il y a quand même une histoire d'amour incestueuse assez tordue que j'ai pas vu venir du tout. On peut pas s'empêcher de se dire tout de même qu'il a trop voulu rendre son œuvre beaucoup trop complexe pour rien. Et c'est vrai, mais je vois plutôt ça un petit peu comme un projet de son côté un petit peu trop ambitieux. OK. Donc c'est beau d'être artistique, d'aller un petit peu plus loin, mais t'en chaud du contenu dans ton film là, comme pour rien, honnêtement. bien sûr, un autre point fort du film est son atmosphère. Ça, c'est sûr, c'est sombre, gothique. Moi, personnellement, j'irais rajouter une coupe de plans avec des flocons de neige sous un vent noëllement diabolique.
Pourquoi? Car partout c'est Noël.
C'est Noël.
Car partout c'est Noël.
Voilà, je voulais pas te couper,
merci,
mais
Chantal.
Je voulais te
couper. Non, mais c'est vrai. On sent honnêtement dans le film qu'on est au début de l'hiver. Ouais. OK, on voit du gazon genre.
C'est weird,
donc
hein?
On est censé être le 24 décembre après tout, mais bon, donc tu sais, pour un budget de 300 000, on fait avec ce qu'on a. Donc,
ouais, c'est ça qui arrive.
Tu sais, l'ambiance de Noël est quasi inexistante. Oh. C'est pas aussi pire que l'année passée quand j'ai parlé de Home for the Holidays.
Ouais, ouais,
ça
ouais.
Se compare pas à ça. Donc tu sais, à part un plan où Diane emballe des cadeaux chez elle, puis plus précisément une cage à oiseaux en papier, avec un background de paquets de cadeaux de Noël. Tu sais que c'est des boîtes vides, avec un sapin de Noël dans le corner, ou une coupe de cartes de Noël épinglées sur le mur du bureau de travail de l'opératrice. Tu sais, t'as pas... Tu sens ouais. pas que c'est Noël, tu sais. Donc, rien, mais... C'est pas grave. Donc, je dirais le moment le plus intéressant du film, OK, où j'étais donc content que ça soit arrivé, c'est lorsque nous sommes transportés en 1935 en flashback pour voir ce qui s'est passé.
C'est un flashback en noir et blanc?
Attends.
Tu te souviens-tu? J'aime ça quand il se change de couleur, là, pour
oui,
te faire comprendre.
Oui, espèce, je l'avais écrit, attends.
Ah, oh, ben, je vais te laisser aller, excuse-moi, je t'ai devancé.
Oui, mais non, mais pour vrai, il y a. Quand on est transporté en 35, pour voir ce qui s'est passé, bon, quand Wilfred abritait une bande de médecins aristocrates qui menaient des expériences sur des détenus psychiatriques dans une bâtisse derrière le manoir. Donc, pour répondre à ta question, toute cette séquence est tournée en sépia.
Oh, OK.
Donc,
comme quand tu vas prendre des photos à ronde, là, avec
genre,
des costumes anciens.
Comme si tu aurais renversé du thé sur ta photo.
Oui,
genre.
Oui, oui.
Tu sais, donc, sans aucune musique, sans dialogue, et seulement avec des bruits ambiants du manoir et les détenus qui vont transformer la soirée en banquet sanglant digne d'un grand guignol, OK?
Ah ouais, mais
ça fonctionne à merveille,
ah ouais,
cette scène-là. C'est wow! C'est magnifique, cette
scène-là. Tu parlais du côté artistique.
Oui.
C'est-tu comme un peu au ralenti?
Non.
Pas de son?
Dans le sens...
Je cherche les mots, là.
Il y a pas de son. Il y avait de la narration, tu sais, de William Butler qui racontait ce qui s'était passé. Mais quand les détenus sont lâchés, t'as l'impression de regarder vraiment un film très, très, très ancien. Le sépia, au lieu d'être du noir et blanc, la façon que les détenus sont un petit peu maquillés et l'approche qu'ils ont quand ils rentrent dans la salle, c'est silencieux. T'entends juste comme des craquements.
OK. Okay.
De plancher. Il n'y a pas de son. Tout le monde est sous en tant que tel. T'sais, donc il,
juste les sons d'effet ambiants.
Ah, c'est, okay. Ça fonctionne à merveille, cette scène-là. Okay. Pour cette scène-là, sérieusement, j'ai trouvé ça super.
Nice. Okay.
Malheureusement, la finale bâclée laisse un peu à désirer quant au dévoilement du psychopathe. Okay? Néanmoins, Silent Night, Bloody Night reste une œuvre intéressante, malgré tout ce que je vous ai dit, mais qui aurait pu être beaucoup mieux maîtrisé, c'est vrai. Donc, en matière de films d'horreur slasher thématique de cette époque-là, dans les années 70, qui était pratiquement inexistante, à part Black Christmas ou quelques autres TV movies, celui-ci vaut le détour pour au moins un visionnement. Donc, je vous dis que pour votre culture personnelle aux amateurs de slasher de Noël, celui-ci vaut le détour, mais comme mon synopsis était plutôt long tout à l'heure, je vous le dis, c'est compliqué. Il a fallu que je recule le film à quelques reprises chez moi parce que, de un, j'entendais pas super bien ce qu'il se disait et c'est mélangeant. C'est je comprends les acteurs, mais à la fin du film, t'es comme « Ok, ouais, ça fait du sens, mais tout ça pour ça, tu sais. » T'aurais sorti un film comme ça aujourd'hui, beaucoup mieux maîtrisé, ça aurait fonctionné. Et une autre chose, c'est que en 2014, ils ont sorti un sequel à ce film-là. Okay. Et il y a un remake qui est en production. Puis je parle pas d'un sequel boboche cheap ou... Non, il y a vraiment eu un sequel. Puis le remake s'en vient prochainement. Donc oui, c'est un cult favorite. Grandement influencé par Hitchcock et Romero 1960. Je vous dirais ce film-là pour moi, pour les styles. Moi, je dis qu'il vaut au moins une écoute. Moi, je l'apprécie, puis je dirais, je sais pas si toi, Simon, tu serais willing, mais nos auditeurs, là, si vous avez, le film va être disponible anyway sur le blog, mais ça vaut le détour, mais comme, soyez patient.
Mais ça vaut le détour, pourquoi?
C'est Noël.
Car partout, c'est Noël.
Ça va-tu, Céline, ça date, là, au nombre de fois que tu l'as fait...
J'aime tellement ça. Ah, pis c'est absurde. Pour le backstory, là, c'est comme une track sur l'album de Noël de Chantal Paris où ce que t'as... J'ai coupé un petit peu le début, mais c'est pas ben plus long. Là. C'est comme un 6-7 secondes plus long au début. Pis c'est comme si... T'avais cet homme-là au début qui faisait un conte puis qui se termine par Car partout, c'est Noël. Puis là, Chantal Paris qui finit avec Car partout, c'est Noël. Pis c'est juste ça. Fait que la track sur l'album, elle dure genre 40 secondes probablement. Pis ça a juste l'air d'une pub de centre d'achat. Et comme preuve de tout ça, c'est exactement ce qu'on va aller écouter. Okay. On va aller prendre une petite pause de Noël puis on vous revient tout de suite après aux oubliettes sur choc.ca. Merci Olivier.
Le Carrefour de l'Estrie, c'est tout un monde en fête. Magasinez tôt, vous profiterez d'un grand choix de suggestions cadeaux pour un Noël colorié d'aubaine. Partagez la joie des enfants, amenez-les voir notre grand château au centre de la promenade et les peupler des personnages du monde merveilleux de Disney World. Le Carrefour de l'Estrie, tout un monde en fête. Chaque fin de semaine, spectacles divers, marionnettes, bouffons, chorales, tout pour que vous ayez les yeux émerveillés des enfants. Le Carrefour de l'Estrie, pour un Noël colorié d'aubaine.
Bonjour les bonjour!
C'est avec grand plaisir que je souhaite un joyeux Noël à tous ceux et celles qui regardent 4 saisons.
Je souhaite un joyeux Noël à tous ceux qui regardent le hockey au Nordique aux 4 saisons.
Ça me fait plaisir de souhaiter un joyeux Noël à tous ceux qui écoutent la fourchette des vedettes comme moi.
Je souhaite un joyeux Noël à tous ceux qui écoutent une... Action-réaction.
Je souhaite des joyeuses fêtes à tous ceux qui écoutent la pierre à feu comme moi.
Joyeux Noël à eux autres qui écoutent Foot Foot à 4 saisons.
Joyeux Noël pour tous ceux qui regardent des films comme moi à 4 saisons.
Je souhaite joyeux Noël à tous ceux-là qui écoutent 24 sur 24 à CFRS.
Joyeux Noël à tous ceux qui écoutent de la Maison des Chaînes.
Joyeux Noël à tous ceux qui regardent Salle de Nouvelles avec comme nous à CFRS.
Aux petites roues s'en viennent les 100 watts avec des beaux sous.
Et nous, au Club des 100 watts, on vous en donne toujours plus. Surtout durant la période des fêtes. Oui, par exemple, à tous les jours, le samedi et le dimanche, bien sûr, à 17h30, vous allez pouvoir voir les meilleures émissions du Club des 100 watts. Avec, entre autres, l'émission spéciale Vanessa Paradis, spéciale Prof Bof, le concours de lip-sync glacier, et puis plein de choses que je vous dirai une autre fois. Dès le 21 décembre.
Ah, bon, ben, ma toune a mal transféré, fait que c'est tout ce que j'avais comme intro. C'était un peu absurde. Ben, bon.
C'était de toute beauté, la petite annonce. Hein?
C'est tellement absurde. Ah, j'aime ça. Mais là, excusez pour l'intro qui a été un peu botchée, là. J'aurais dû rechecker ma toune. J'espère que les prochaines sont bonnes parce que j'en ai pas mal. Mais, hein, faut pas oublier, c'est un peu ça aussi, la magie de Noël. Ok, ça va faire. C'est Noël. Ok, ta gueule. Donc, aujourd'hui, moi, comme à chaque année, j'ai eu envie de vous parler de ciné-cadeaux. Petit rappel pour les auditeurs français, hein, les Québécois n'ont pas besoin de savoir, ils savent.
On connaît ciné-cadeaux.
Ciné-cadeaux, vous avez probablement la même chose en France. C'est une émission de télé sur la chaîne anciennement Radio-Québec, maintenant Télé-Québec, qui, dans le temps des fêtes, présentait une programmation des fêtes pour le jeune public. Donc, à tous les jours, à 18h30, tu as des courts-métrages et des longs-métrages qui sont présentés dans le cadre de Ciné-Cadeau. Ce n'est pas nécessairement des films de Noël, c'est seulement des films d'animation, des films jeunesse. Ça a commencé en 1982 et ça n'a jamais arrêté depuis. Vous savez, si vous voulez plus d'informations sur les films, hein, vous savez, j'ai lancé le blog il y a quelques années, Souvenirs de Ciné-Cadeau. Je sais pas trop le temps que je vais avoir, que je vais pouvoir investir dessus cette année, mais il y a déjà beaucoup de stock. J'ai quelques nouveautés pour cette année, je vais vous tenir au courant. Mais bon, ce que j'avais envie de sortir aujourd'hui, c'est des archives étranges. J'ai déjà parlé de quelques films, mais tu sais, les plus weird. Là, on va descendre un petit peu en weirdness, puis en étrangeté, puis en trash, mais c'est pas grave, c'est quand même des films particulièrement étranges. J'ai fait 3 sélections. Bien, on va commencer comme ça, justement. On va se mettre dans le bain. Moi, je commence avec Le secret des Sélénites, produit en 1982, sorti seulement en 84 à la télévision. Donc, c'est diffusé pour la première fois à Ciné-Cadeau le 24 décembre 1983.
Ça, c'est la musique?
Ouais.
Exécuté un firmament.
Mais ok, donc Le secret des Sélénites a eu une seule rediffusion par la suite. Donc première fois en 83, Ciné-Cadeau. Deuxième fois le 1er janvier 1987. C'est un film d'animation français réalisé par Jean Image. Je trouvais que ça valait la peine. Je fais un petit tour d'ensemble. C'est qui ce Jean Image? Donc son vrai nom est Imre Hajdu, né à Budapest en 1911. Il va débuter sa carrière chez un imprimeur d'affiches de cinéma pour ensuite avoir la piqûre et poursuivre ses études à l'école d'art déco de Budapest. Il va se faire grandement suggérer de tenter sa chance en France et donc à Paris, il s'oriente vers le dessin publicitaire avant d'être engagé en 1936 par Gaspard Collard pour réaliser des dessins animés publicitaires. Il va changer son nom par la suite par Jean Image, hein, son vrai nom Imre Hajdu, donc Image. C'est tout simplement ça, mais ça fonctionne bien. Et bon, il se fait rapidement un nom dans l'industrie comme un excellent animateur. Son premier court-métrage est Le Loup et l'Agneau en 1939, adapté de Jean de La Fontaine. Il est inspiré par la guerre qui fait rage et va grandement se faire censurer. Il va d'ailleurs passer la guerre à Nice pour ensuite revenir en France en 1945. Et c'est là qu'il va lancer sa société, les films Jean Image. Nous ne pouvons pas concurrencer les Américains. Il va se concentré sur une esthétique unique et des techniques différentes des leurs. Donc, en 1950, sort le premier long-métrage de la société, Jeannot l'Intrépide, et ça va prendre du temps, mais le film va avoir un certain succès par la suite. Bon, malgré un petit budget, beaucoup plus petit budget que les productions de Disney, il va quand même réussir à faire sa place et évoluer pour finalement devenir mondialement célèbre. C'est un des grands pionniers, en fait, de l'animation en France. Il est le créateur de quelques séries et films d'animation à succès comme Kiri le Clown ou Aladdin et la Lampe Merveilleuse. Mm-hmm. Donc, qu'est-ce que Le secret des Sélénites? C'est en fait une sorte de suite à son précédent film, Les aventures du baron Munchausen, réalisé en 1978.
Oh, OK.
Mais sa suite est un long métrage, oui, mais prenant en considération la possibilité d'être recoupé en une diffusion télé épisodique. Baron Munchausen sera jamais diffusé, à ma connaissance, à Ciné-Cadeau, seulement sa suite, probablement pour une question de prix, mais vous allez comprendre. Donc... C'est en version justement télé épisodique qui va être diffusée pour la première fois en France sur Antenne 2, coupée en épisodes de 20 minutes. Le scénario s'inspire librement du livre Baron Munchausen's Narrative of His Marvelous Travels and Campaign in Russia de 1785, écrit par Rudolf Erich Rasp. Mais quel est le synopsis du film? Pour hériter de l'immense fortune de son cousin, le vieil astronome Sirius, le légendaire baron de Munchausen, embarque le en bateau à voile pour la Lune, hein, pas une île, la Lune, en bateau à voile, avec ses compagnons en quête du talisman des Sélénites qui rend immortel. Il va aller aider le roi des Sélénites durant son voyage, qui sont des tripèdes à la tête amovible, contre leurs ennemis, des petits bonhommes verts faisant office de méchants. Donc, quel film weird et étrange que ces maudits Sélénites, c'est vraiment bizarre. C'est un film très original, très inventif, mais vraiment bizarre. En passant, le sélénite, le terme, le vrai mot sélénite, dans le film, c'est un peuple, mais sélénite, c'est un minéral qui ressemble beaucoup à du quartz.
Du quartz. Mais je trouve ça cute, sélénite.
Ouais. Ah, oh, tabarnouche, j'ai des chaleurs quand je pense au quartz. Donc, c'est très difficile à décrire comme film. Il faut le voir pour... Non, j'allais dire le comprendre, mais on comprend pas plus en le voyant, en fait, là. Oui, l'histoire se suit, c'est un univers weird et fantastique, mais la magie se trouve dans l'animation. Son maigre budget nous saute aux yeux. Les animations sont tellement cheap que ça en est hallucinant. Sans mettre de côté l'absurdité du dessin, comment dire, les angles de vue sont illogiques. Tu sais, quand on regarde un dessin, par exemple, là, où les dimensions et les profondeurs du décor, tu sais, ça font pas de sens, puis ça fait comme une illusion d'optique. C'est un peu ça.
Okay.
Mais c'est sûr que c'est pas volontaire. Ouais, là.
De perspective. Là.
Exactement, c'est ça qu'on cherchait. Prenez une perspective. On va avoir peut-être un plan où le capitaine du bateau est droit devant. T'sais, on est face à lui, bien droite, mais... La roue, hein, entre ses mains, là, comment tu appelles ça, là, la roue, c'est un navire. Là. Pas la pagaie, là, mais. En tout cas, la roue, là, le volant.
J'ai comme rail, quelque chose à rail.
Ah, c'est pas grave. Pas grave. Mais bon, le volant, lui, c'est comme s'il était en angle. On dirait qu'ils sont pas. Je sais pas pourquoi, là. Peut-être pour pousser la perspective dans le dessin, mais c'est pas maîtrisé. C'est comme si la roue est en angle un peu parce qu'on voit l'angle du côté. Fait que tout est comme tout le temps tout croche. Comme ça, parce que c'est pas les bonnes perspectives. Ça, c'est weird. C'est un peu bizarre. C'est comme une illusion d'optique que le cerveau est incapable d'analyser. Personnellement, j'ai saigné des oreilles, puis j'ai adoré ça. J'irai pas jusqu'à dire que c'est un nanar, toutefois, hein, mais c'est cheap, hein, sans l'ombre d'un doute. Mais ça vaut le détour pour constater l'échec partiel de l'animation. Donc, Le secret des Sélénites, qui est disponible sur le blog, même si vous le regardez pas au complet, je pense qu'il vaut le détour. Je pense que ça vaut la peine d'y jeter un coup d'œil parce qu'il est très étrange. Les fans d'étranges puis d'animation vont vraiment triper sur Le secret des Sélénites et la plupart d'entre vous, du moins québécois, je sais pas à quel point il a été connu en France, mais Jean Image, c'est un personnage célèbre, donc j'imagine que vous allez faire le saut vous autres aussi. Si vous en souvenez pas, vous allez être comme moi, vous allez faire « Ah oui, ça! »
Mais c'est quoi, c'est-tu comme une cinquantaine de minutes, une heure?
C'est une bonne heure et vingt.
Ok, c'est vraiment c'est un long métrage.
Un autre film, mais là on est plus dans le court-métrage. Dans cette ère de légalisation du pot, j'aimerais vous parler de Puff, le dragon magique. C'est à la base une chanson qui était composée par Leonard Lipton et Peter Yarrow, qui a été popularisée par le groupe Peter Paul and Mary sur l'album Moving en 1973. On va d'ailleurs en écouter un extrait. Là.
Puff the magic dragon lived by the sea and frolicked in the autumn mist in a land called Hanalei. And brought him strings and sealing wax and other fancy stuff. Oh,
Puff the Magic Dragon.
J'imagine une scène de meurtre là-dessus, genre, ça serait
ah,
malade.
Tellement, hein?
Mais ça, c'est moi, c'est ma tête.
Ah, non. Au cinéma, là, il y a une toute smooth comme ça, avec une scène d'horreur.
Sac
là.
Ben raide, là.
Mais tu sais, ça fait très Simon and Garfunkel, là, tu sais, c'est très smooth, puis ça raconte l'histoire de dragon, qui est bien cute, puis blabla, là, tu sais. Là, par la suite, la chanson va être adaptée en court-métrage d'animation de 30 minutes destiné à la télévision en 1978. Il y aurait aussi droit à une traduction française avec le générique chanté par le groupe Crèche. Je pense que je le prononce comme faux. Je pense que c'est ça, Crèche, qui avait adapté le titre en vue d'un lancement sur un album 45 tours. Toutefois, cette version ne sortira jamais parce que le chanteur, le célèbre Claude François, avait déjà sorti sa version en 1970, dont voici un extrait encore une fois.
Un pays lointain, tout au bord de l'océan.
On voit le genre. Là,
les deux sont bonnes.
c'est super cute. Donc, le court-métrage a eu un certain succès, alors deux autres suites sont produites par la suite. Donc, Puff le dragon magique au pays des mensonges en 79, suivi de Puff le dragon magique et l'incroyable Monsieur Personne en 1982. Les trois ont été diffusés à Ciné-Cadeau, le premier le 27 décembre 84, suivi du deuxième le 5 janvier 86 et finalement le troisième le 22 décembre 1984. Les trois ont eu plusieurs rediffusions aussi par la suite. Mais quels sont les synopsis? Je vais vous faire les trois brièvement parce que tu sais, bien capter c'est quoi le thème, la morale finalement de Puff le Dragon. Là. Pour Puff le Dragon magique de 78, l'histoire est celle du petit Jackie, un enfant qui semble autiste et qui ne dit pas un mot au grand désespoir de ses parents qui demandent l'aide des plus grands spécialistes médicaux pour trouver une solution. Hélas, le verdict paraît bien cruel. Jackie ne pourra sans doute jamais parler. Pourtant, dans son imagination débordante, le petit garçon a un grand ami, le dragon magique Puff. Celui-ci va l'amener dans son monde et lui faire vivre plusieurs aventures qui, peut-être, finiront par donner à Jackie quelques leçons et l'envie de communiquer avec les autres. La deuxième, au pays des mensonges, c'est Sandy, une petite fille pleine d'imagination, mais qui ment beaucoup. Puff le dragon l'amène au pays des mensonges pour qu'elle rencontre des menteurs célèbres comme Pinocchio et le garçon qui criait au loup pour que leurs histoires enseignent à Sandy le mal que peut faire les mensonges. Et finalement, le troisième, l'incroyable Monsieur Personne, Puff trouve un petit garçon du nom de Terry qui possède une grande imagination, hein? C'est toujours le pouvoir de l'imaginaire, hein? Mais qui a de la misère à se faire des amis. À la place, il a un ami imaginaire du nom de Monsieur Personne, un canard portant une casserole en guise de chapeau. Lorsque l'imagination de Terry commence à le mettre dans l'embarras, il va accuser Monsieur Personne au lieu d'assumer ses torts et accepter que toute cette imagination est la sienne. Éventuellement, Terry est abandonné par Monsieur Personne, qui est choqué de ça, et c'est avec l'aide de Puff qu'il part à sa recherche tout au long de la route. Puff apprendra à Terry à chérir sa créativité. Donc, ce qui est intéressant dans l'histoire de Puff le dragon magique, c'est sûr que c'est des belles morales puis tout ça, puis ça a l'air bien cute, une belle approche, une bonne musique. Mais ce qui est intéressant pour moi et pourquoi j'en parle aujourd'hui, c'est les accusations. Parce que c'est un Puff le dragon magique a été accusé d'abord la chanson, un peu moins le dessin animé, mais c'est ressorti les accusations quand il y a eu le dessin animé pour enfants. C'est-à-dire que on accuse Puff d'être une analogie à la marijuana. Hein, le sous-entendu est facile à voir. Hein?
J'ai une bonne photo. Puis écoute, s'il s'appelle Puff, il est vert, puis ses sourcils, on dirait des petites cocottes. Genre, t'as-tu remarqué?
Ouais.
Ça ressemble à ça.
Non, c'est ça, il y a comme... Tu sais, il est facile. C'est facile à voir. Le Puff, le dragon magique, là, t'sais, qui t'amène au monde de l'imagination. Mm-hmm. Voyons, come on. Toutefois, le groupe a toujours démenti les accusations, mais t'sais, bon, c'était l'époque. Hein, le groupe s'attendait peut-être pas à un succès auprès des enfants non plus, c'est possible. À la base, malgré le côté fantastique, il n'y a rien dans la chanson qui affirme que c'est destiné à des enfants. Mais qui sait, le mystère se poursuit. Et je vous propose même d'écouter les chansons sur le blog, dans la section musique, là, de vous faire votre propre idée. Et je vous invite à participer partagez votre opinion sur Facebook. Je serais curieux de vous lire. Pour les courts-métrages en soi, ben, je dirais que c'est très américain. C'est bien dessiné, simple, avec de belles morales. C'est des très bons courts-métrages jeunesse, faut bien l'admettre. Pas étonnant qu'on en ait fait une trilogie. Ils sont eux aussi disponibles sur le blog. Profitez-en. Pour terminer, j'aimerais parler de Binofabule, un film étranger de série. Un film étrange tiré de la programmation de Ciné-Cadeau. C'est vraiment, vraiment space. Quelle étrangeté, mais surtout quel dommage qu'on ne produise plus ce genre de petits bijoux d'animation. Mais attention, faites pas du moche avant de le voir parce que vous risquez de ne jamais en revenir. C'est une coproduction entre le Canada, la France et la Belgique sortie en 1988. C'est une réalisation de Réjeanne Taillon, Robert Lambert et André Roussil qui s'est chargé de l'animation image par image, qui en a pris la direction plutôt. Et si on aime ça, un film en stop motion, oui, comme il s'en fait plus. Donc, quel est le synopsis? C'est simple, c'est Bino qui rêve depuis longtemps de pouvoir voler, et quand il rencontre Claire de Lune, une créature volante mystérieuse, il tente par tous les moyens de s'approprier son pouvoir, et il n'est pas le seul. Donc, ce qui est cool, c'est que sa toute première diffusion télé francophone est en 1991 à Ciné-Cadeau sur Radio-Québec. C'est un film qui mélange prise de vue réelle et stop motion. Les prises de vue ont été filmées en Belgique, puis l'animation, elle, au Québec, à l'ONF, grâce au travail et au conseil incroyable de l'animateur Co Oederman, parce que c'était à la base un produit... produit par des équipes d'amateurs d'animateurs plutôt, peu expérimentés. Pas des amateurs, mais des petits nouveaux si on veut, tu sais, du sang neuf. Il a été en quelque sorte, donc Co-Waterman, il a été une sorte de conseiller dans tout ça. Dans le rôle principal, on a le comédien Pietro Pizzuti, qui a ensuite eu une grande carrière, mais au théâtre. Le tout sur une musique originale de Osvaldo Montez, qui signait ici son premier soundtrack de fiction. C'est un film très poétique, je dirais. D'ailleurs, j'avais la toune, mais elle semble pas jouer dans le logiciel. Je vais essayer de la glisser ailleurs. Ça fonctionne. Non, ça fonctionne pas. C'est pas grave. c'est parce que...
Non, c'était ton préféré.
Ben, je peux le remettre. C'est Noël.
Hey, t'oublies, il y a Benoît Dagenais qui joue dedans.
Oui, on a quelques personnages québécois aussi qui jouent dedans. Effectivement, j'ai pas fait le tour, mais on a quand même quelques noms qu'on reconnaît, là, qui ont des petits rôles. C'est un film qui est très poétique, je dirais même naïf. C'est pleinement assumé. Les personnages de stop motion sont faits de pâte à modeler et d'argile. On sent bien l'époque 80 dans son look et ses décors un peu psychédéliques, mais ça vieillit étonnamment bien. Encore faut-il être fan de ce genre d'étrangeté. Le film ça veut une sorte de critique de la science sans conscience qu'on ressent à travers Bino et le personnage appelé Potassium, qui font fi des impacts de leur expérience qui mènent sans considération pour les autres. Ils pensent pas aux conséquences parfois dangereuses de leurs expériences, focus uniquement sur le résultat pouvant affecter le personnage du nom de Claire de Lune. Donc le personnage Torticoli, devient une espèce de bonne conscience pour Bino et essaie de contrôler ses idées farfelues. C'est un film qui est sorti au départ en 88 comme un long métrage, mais il a été pensé comme une série télé. Il n'a jamais eu de sortie officielle, mais même s'il a été présenté à quelques reprises en salle, faudra attendre 3 ans plus tard avant de le voir au petit écran. Au Québec, il a été présenté donc dans les deux formats. D'abord en long métrage, ensuite en mini-série de 3 ou 4 épisodes. Il a remporté à sa première diffusion le prix Gémeaux en 91 pour un film d'animation. Spectateurs français, eux, doivent attendre en 1993 pour le voir à la télé au Canal J. C'est un très beau conte de science-fiction, en fait, qui saura plaire aux plus jeunes comme aux plus vieux. Et ce, j'en suis certain. C'est un film particulièrement unique en son genre, vraiment space, très weird, mais attachant. C'est vraiment flyé, mais c'est pourquoi j'adore Binofabule. J'en garde un excellent souvenir d'enfance, et mon amour pour Binofabule s'est consolidé quand je l'ai revu une fois adulte, et donc vous le devinez, il est lui aussi disponible en entier sur le blog au www.lesoubliettes.ca. Et je vous rappelle que pour le blog de Ciné-Cadeau, J'avais-tu acheté un nom de domaine pour ça? Je me souviens pas.
Boy.
Je suis pas sûr que j'ai un nom de domaine pour ça, mais sinon, pour le retrouver, cinécado.blogspot.com, c'est souvenir de Cinécado pour avoir une panoplie de films d'animation de l'époque. Vous allez avoir bien du fun. Pour terminer, Olivier, est-ce que toi, t'as un film... outre les Astérix, les Garfield, les Lucky Luke, les Charlie Brown qui étaient diffusés à Cinécado, il y en a-tu un que tu te souviens qui t'avait marqué, toi, dans le temps, que t'avais bien aimé?
Longtemps. Si on enlève les Astérix,
les classiques,
mais regarde, ça fait tellement longtemps, quand les titres que tu me disais tout à l'heure, quand j'ai tapé Bino Fabule, puis quand j'ai regardé les photos, je m'en suis souvenu.
C'est ça.
Parce que la petite lune, elle ressemble vraiment comme un genre de petit case à scotch tape.
Oui.
Tu sais, la façon qu'elle est faite. Puis les décors, ça me rappelle des souvenirs, ces petits yeux en étoile.
Ouais, ouais, ouais.
J'ai des flashs de ça. Tu sais, mais est-ce que je m'en souviens de ce qui se passait? Non. Mais écoute... J'aimais bien... c'était quoi déjà, là, le chat pas de queue?
Ah, ben oui, c'est Polo le chat sans queue.
Polo le chat sans queue. Qu'est-ce qu'il jouait aussi? J'aimais beaucoup le pousset vert. Le pouce vert.
Le pouce vert. Il y a un prénom, puis c'est le pouce vert. C'est un grand film.
Le petit pousset, je pense. Puis à chaque fois, bon, qui met son doigt sur les murs, il y a de la
nature qui apparaît. Ben
puis,
oui.
Ouais, je pense que c'est
vrai que c'est des très bons films.
J'aimais beaucoup. Là.
C'est très cool. Hey, merci Olivier pour ta découverte. Merci, cher public, d'avoir été là. On se laisse avec un petit extrait du soundtrack d'Home Alone parce que c'est un classique tellement délicieux. Merci d'avoir été là. À la semaine prochaine pour un petit épisode spécial de Noël.